Ok, donc et on développe donc un modèle dit en trois temps, parce qu'il faut lui donner un titre. Donc des solutions pour avec des objectifs pour lutter contre la mortalité maternelle, l'accès aux soins. Disons, c'est écrit petit là-dessus. Donc avec des moyens de communication pour accéder aux soins, un coût modéré. Il n'y a pas possibilité d'augmenter là? Bon, un coût modéré, l'éducation des usagers, la valorisation du suivi sanitaire. Alors, toutes ces mesures ne dépendent pas, à mon avis, enfin, à notre avis, des ONG, mais de la politique de santé du pays. Après, il y a la qualité des soins. Une fois qu'on a pu accéder aux soins, il faut que les soins soient de qualité. Et pour ça, il faut une prise en charge obstétricale de qualité qui nécessite certes un plateau technique avec du matériel et médico-chirurgical suffisant, sans oublier que le meilleur matériel que l'on ait, c'est quand même nos deux mains. Donc, il ne faut pas toujours se cacher derrière l'absence de matériel technique, etc. Il y a avant tout beaucoup de possibilités avec deux mains pour sauver des femmes. Il faut du personnel soignant suffisant en quantité, disponible et de qualité, ayant des compétences. Tout ça dépend aussi du domaine du politique. Savoir se doter de professionnels, c'est-à-dire faire des méthodes pour qu'il y ait de la formation de professionnels de santé. Et après, une fois que les professionnels sont formés, savoir les garder, c'est-à-dire en leur donnant un statut et un salaire suffisant pour qu'ils puissent rester dans le pays. Alors, les qualités et compétences en obstétrique, c'est comment là-dessus, nous, on peut intervenir en tant qu'ONG, c'est sur justement améliorer la qualité et les compétences des professionnels qui ont été formés. Donc, basé sur les compétences et aussi participer à l'organisation des soins autour de la patiente. Alors, dans nos principes éthiques de GSF, on ne souhaite pas se substituer, donc c'est ne pas se substituer, mais accompagner. Formé par compagnonnage, d'égal à égal, on ne se met pas en supériorité, et être attentif surtout à respecter l'autonomie de la population qu'on vient aider, de nos hôtes. Alors, il y a deux types de missions, on a pu voir, elles sont effectivement complémentaires. Alors, on peut s'amuser à dézinguer un peu MSF par rapport à ça, mais ce n'est pas du tout le but. Je trouve que toutes les missions MSF, MDM, GSF, sont complémentaires, elles ont toutes leur utilité. Donc les missions de substitution, comme par exemple avec MSF, ça donne des soins de qualité et c'est important dans le cas de l'urgence où il y a effectivement une carence médicale importante. Donc ces missions construisent des structures sanitaires, emploient du monde, il y a donc des salariés, font la gratuité des soins. Tout ça, on peut y revenir, ça peut être plus ou moins, mais dans le cadre de cette politique, c'est à mon avis utile parce qu'on est dans le système urgence. Ça développe donc beaucoup de moyens logistiques importants avec un budget aussi très important. Ce qui leur confère aussi à ce type d'ONG assez importante, une indépendance financière et l'acceptation presque de facto des politiques. Étant donné qu'ils arrivent avec tout le matériel et tout le budget, souvent, c'est plus facile de pouvoir proposer un projet quand on amène tout. Donc, le budget est important et il y a une certaine autonomie donc, de l'ONG. Après, il y a les missions de formation, de développement des professionnels locaux. Et là, le but, c'est de partir de l'existant. Donc, on va voir ce qu'il y a sur place comme matériel humain. Et à partir de ça, on va essayer de performer l'existant. Et on commence par former des formateurs locaux. Parce que jusqu'à présent, on a fait beaucoup de SONU à GSF et on a fait beaucoup d'erreurs. Et là, j'en reviendrai après, mais maintenant, la première étape, c'est de former des formateurs locaux, nationaux. Après, il faut former les professionnels avec ces formateurs nationaux, locaux. Alors, ce sont des missions qui ont des budgets nettement inférieurs au budget des missions de substitution, mais qui demandent beaucoup de palabres, de diplomatie avec toutes les tutelles, que ça parte de la direction de l'hôpital jusqu'au ministère de la Santé, parce qu'on n'arrive pas avec justement un cadeau financier. Donc, on vient pour faire avec le moins de moyens possible une action. Et donc, on n'est pas. Des fois, il faut palabrer longtemps pour pouvoir intégrer un programme. On est moins sexy que moins attractif. Alors, les missions de formation, quand même, ça a un intérêt pour les ONG. C'est une mission, donc je dis qui sont des missions peu coûteuses, en logistique, en durée, avec une certaine éthique. Donc, on fait de la formation, donc on s'inscrit dans un schéma pérenne vers l'autonomie de la population. Donc, c'est éthiquement assez satisfaisant. Pour les expats ou les volontaires ou les bénévoles, c'est beaucoup moins attractif parce que ce sont des missions qui nécessitent quand même des compétences pédagogiques. Il faut s'adapter à l'auditoire et il faut s'adapter surtout au système. Donc on ne peut pas venir faire un cours comme on le ferait en France, etc. Donc il va falloir adapter sa pédagogie à l'auditoire. Et c'est un auditoire très complexe parce qu'on ne le connaît pas. Les niveaux de connaissances sont très variables, très, très différents. Il y a des problèmes de compréhension, de langage, etc. Donc il faut adapter, il ne faut pas venir avec son PowerPoint déjà tout préparé, mais il va falloir l'adapter au jour le jour en fonction des questions qui ont été posées pour essayer de faire passer le message de la façon la plus pertinente possible. Et finalement, ce type de mission est assez fatigant, pas du tout relayé par les médias. Personne ne va s'extasier parce que vous êtes parti faire une mission de formation dans le fin fond du Burundi, par exemple. Donc c'est beaucoup plus fatigant, beaucoup moins facile pour les expats. Et donc c'est plutôt pour des expats qui ont un peu plus de recul, un peu plus d'expérience. Pour ceux qui commencent, c'est plus facile de faire des missions d'urgence. Alors ces missions de formation, elles reçoivent quand même un franc succès au niveau de la population, parce que les gens sont quand même en demande de se former. Nous, on a toujours ce souci d'avoir un faible budget, donc de la rentabilité. Donc on a fait les erreurs classiques, c'est de multiplier le nombre de participants avec des durées assez courtes. Donc en une semaine sur 50 personnes, essayer de faire passer toute l'obstétrique, c'est délirant. Mais bon, on l'a fait, on a vu que ça ne servait à rien. Et donc si on évalue, parce que souvent on dit qu'il faut évaluer ce qu'on fait, effectivement dans les programmes c'est marqué, il y a la partie évaluation de ce qu'on a fait, mais bien souvent à la fin d'une mission, l'évaluation passe un petit peu moins, de manière moins évidente que dans le programme. Et si on évaluait ce qu'on a fait jusqu'à présent en SONU avec ces amphis en plein, on peut penser que pour l'amélioration des pratiques, on a été absolument nul, quoi. Il faut le reconnaître. Donc nous, on a progressé, on s'est mis à penser à une stratégie en trois temps qui est apparue un petit peu par hasard au cours d'une mission au Burundi. Et après, on s'est dit, on va peut-être modéliser ce système. Donc le principe, c'est premièrement évaluer l'existant et identifier une structure à potentiel. Donc qui deviendra un centre de référence. Alors une structure... je reviendrai après. Après, faire de la formation par compagnonnage dans cette structure, de manière à performer les professionnels de santé, et pas uniquement les médecins, mais toute la filière de santé pour la mère, dans l'hôpital ou dans le centre de santé, pour en faire des futurs formateurs. Et former après les professionnels alentour, de manière à créer une espèce de réseau autour de ce centre de référence avec les autres structures qui... Donc, où il y a des professionnels qui auront été formés par les professionnels du centre de référence. Alors, identifier la structure de référence qui dispose d'infrastructures minimum, quand même, minimales, et surtout des personnes en quantité suffisante. On n'a pas besoin d'énormément de monde, mais surtout d'énormément de volonté. Donc, il faut tomber sur des personnes qui ont cette volonté de vouloir devenir centre de référence, etc. Ce n'est pas toujours évident. Bien souvent, ils ont vu de nombreuses missions venir leur proposer une formation. Pour eux, c'est rentable, mais ils ne s'inscrivent pas dans l'avenir. Donc, il faut vraiment tomber, et ce n'est pas si évident que ça, de trouver une équipe qui a cette volonté de se performer. Après, on forme les professionnels de l'hôpital de référence par compagnonnage. Donc là, il s'agit d'intégrer le service et ne pas se mettre... Alors, c'était dit, oui, les missions sont courtes. Nous, on fait des missions courtes, entre guillemets, toujours inférieur à un mois. Donc ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais c'est rarement au-delà d'un mois. Et pour la formation par compagnonnage, on pouvait nous dire, oui, c'est un peu court quand même, Nous, finalement, je pense que c'est mieux de faire des missions courtes parce que comme ça, quand on s'en va, il y a une période vide où on n'est plus là, où les gens continuent à vivre. Et puis on voit, quand on revient 6 mois après, s'il y a eu quelques progrès, on recommence ce compagnonnage. Plutôt que d'être là pendant 6 mois, où finalement, on va devenir aussi un personnel de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on va s'intégrer et on va devenir, comme on n'aura plus cette impression d'être un compagnon, mais on fera partie de l'équipe parce que bon, on est là 6 mois, donc on va travailler comme les autres, on fera des consultations, mais il n'y aura plus cette notion de compagnonnage. Ça peut se discuter, mais je pense que ces missions récurrentes sur des périodes de 15 jours, 3 semaines, sont meilleures pour faire passer des messages de compagnonnage. Donc le but, c'est de faire de cet hôpital de référence, qui deviendra de référence, un pôle d'excellence, qui est capable d'organiser, de communiquer, de transmettre et d'évaluer l'activité qu'elle pratique. On fait parallèlement et très très tôt, on débute une formation, donc le deuxième temps, mais qui est quasiment après le compagnonnage, très peu de temps après le début du compagnonnage, une mission de formation chirurgicale pour justement les complications obstétricales handicapantes. On appelle COH. Compagnonnage chirurgical avec, un, montrer en se faisant aider par les professionnels, deux, guider en aidant, trois, regarder en commentant, quatre, disparaître. Et le but, c'est vraiment de former des gens qui soient capables de faire... Alors, il faut se donner les objectifs. Le but, ça peut être de faire traitement du prolapsus, comme on a fait au Bondy, mais ça peut être traiter un périnée compliqué, ça peut être traiter une fistule fraîche, etc. Donc, c'est traiter les complications obstétricales, puisqu'il faut être capable aussi de traiter la morbidité et pas uniquement la mortalité. Et troisième temps, qui demande un peu plus de temps, parce que là, il faut qu'on soit déjà bien intégré dans la structure par le compagnonnage obstétrical et chirurgical, qu'on connaisse bien le paysage alentour, qu'on connaisse bien les contacts, de manière à pouvoir organiser une formation des professionnels des centres alentours avec un nouveau type de SONU qui a été, grâce aux Nations Unies, au FNUAP, qu'on a vu mettre en place au Burundi et qui, je vais vous montrer en 2 minutes, qui, à mon avis, la meilleure formation type SONU qu'on puisse faire. Alors, pour ça, il faut se mettre dans le centre de référence, dans la structure qu'on a identifiée. C'est là que se passeront les formations avec des formateurs nationaux qui sont, en général, qui appartiennent à ce centre. Et les professionnels des centres alentours viennent à ces formations. Alors, c'est une nouvelle approche qui a été mise en place pour la première fois pour nous, enfin, qu'on a vu au Burundi, avec le FNUAP, les Nations Unies, et le ministère de la Santé burundais, avec, dans un premier temps, former des formateurs. Donc, il a fallu former des formateurs. Et là, pour cela, il y a le centre de CEPHOREP, qui est au Sénégal, avec le professeur Philippe Morera, qui est venu passer 2 fois 15 jours pour former des personnes identifiées capables de devenir formateurs. Il y a eu 15 personnes qui ont été prises dans cette formation, des gynécologues, obstétriciens, quelques médecins généralistes et quelques sages-femmes. Il y en a très peu au Burundi. Tous les gynécologues ont été virés. Donc il ne reste que quelques médecins généralistes et sages-femmes capables d'être des formateurs nationaux. Parce qu'eux, ils savent comment ça se passe en pratique, ils savent comment faire passer un message, alors que les gynéco-obstétriciens qui restaient uniquement dans la capitale avaient un discours assez universitaire, pédagogique, mais ils donnaient son cours sur l'hémorragie de la délivrance. Et ce qu'on nous demandait, c'était que fait-on en pratique quand on est quelqu'un pas forcément hyper spécialiste. D'ailleurs, il n'y a pas de spécialiste dans les hôpitaux de périphérie. Quand on n'est pas spécialiste, comment peut-on faire pour gérer une hémorragie? Et ça, les médecins généralistes et les sages-femmes sont plus aptes à transmettre le message.
2 minutes.
Merci. Moi, je finis. Donc voilà ce que ça donne. Là, c'est la formation des formateurs. Alors, là où il y a besoin d'un bailleur important, comme le FNUAP, c'est que ça demande énormément de matériel. Parce qu'il y a un camion, un semi-remorque, avec 7 malles de matériel, des mannequins, des bassins, qui sont très très bien faits. Parce que moi, j'étais un peu dubitatif sur la qualité de la simulation. Mais vraiment, ce sont des mannequins, des simulations qui sont vraiment très bien faits. Il y a un formateur pour 3 prestataires, pour 3 participants. Donc là, on n'est plus l'amphi de 50 avec un type. Donc c'est un formateur et ça marche par atelier. Donc il y a l'atelier hémorragie de la délivrance, atelier siège, atelier ceci. Il reste 2 heures et demie. Ils sont évalués au début, au milieu Et puis, ils ont des évaluations écrites aussi par la suite. C'est vraiment c'est bluffant. On est allé voir ça. Je vois Claudine qui domine la tête, parce qu'elle a participé. C'est vraiment bluffant. Donc, voilà le matériel. Donc, nous, on s'est demandé ce qu'on allait faire, finalement, dans cette formation, parce que on a dit au début, on va mettre deux formateurs GSF et deux formateurs locaux. Et quand on a vu la qualité de leur formation, on s'est dit on va plutôt les gêner qu'autre chose, on va être des boulets, parce que nous, on ne se sentait pas aptes à être aussi performants qu'eux dans la formation, dans la façon de faire passer leur message. En plus de ça, ils savent très bien, nous, on a du mal à connaître les réticences, etc. Tout le monde nous dit oui à chaque fois qu'on pose une question. Tout le monde a dit oui, mais eux, ils savent très bien le vrai oui du faux oui. Donc, ils peuvent switcher en langue kirundi, etc. Donc, on ne peut pas mieux faire comme pédagogie. Donc, on s'est mis derrière. Et finalement, éthiquement, ce n'est pas plus mal. Et on s'est occupé de tout ce qui est aspect logistique, évaluation. Il y a plein de tableurs à remplir. Vous voyez, donc nous, on est derrière, on est là, on organise les formations, donc ça quand même, ça demande pas mal de travail, il faut voir avec les bailleurs, etc., il faut organiser la semaine, donc il y a plein de choses à faire, finalement, qui ne sont pas de la gynéco-obstétrique, mais qui sont de la logistique, vous voyez, on remplit toutes les cases, et puis, mais on laisse faire les formateurs, ils ne font que de la pédagogie, on leur enlève cette charge de travail que normalement, ils doivent faire aussi, donc. Après ça, après cette semaine, ça dure une semaine, et une vraie semaine qui commence le lundi, qui se termine le samedi. Le samedi à 14h, pas le vendredi à midi. Et ça commence à 8h, et ça se finit vers 17h30. C'est vraiment parfait. Et après ça, donc on laisse repartir les étudiants formés, les prestataires, dans leur FOSSA, dans leur formation sanitaire. Et on va les voir 6 mois. Enfin, les formateurs nationaux vont sur site, voir comment ça se passe maintenant. Il reste 48 heures avec eux pour voir comment ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Et puis, ils reviennent encore une deuxième fois, deuxième supervision, quelques mois après, pour revoir s'il y a quelques points qui ont été corrigés à la première supervision, etc. Et normalement, après ça, ils sont certifiés. Alors nous, on s'est dit, on va rajouter une troisième supervision. Et là, on va faire revenir tous les personnes qui ont été formées, pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus cérémonie, disons, on va remettre les certificats et on en profitera avec les bailleurs pour réévaluer, mais pas dans le sens de l'évaluation obstétricale, mais évaluer le ressenti du prestataire, voir comment il a perçu ça, ce qu'il a senti qu'il y avait une amélioration, est-ce qu'il est capable de diffuser ça au sein de son centre de santé, etc. Et puis avoir un retour, un feedback sur voilà, comment s'est passée la formation. Donc c'est le troisième supervision qui est une espèce d'interview, d'un audit sur comment ça a été fait. Et après, on remet la certification. Et tout ça, donc, nécessite beaucoup de palabres. Vous voyez, donc, avec le président, à la sortie du ministère de la Santé, beaucoup de diplomatie. Voilà, je vous remercie.